Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Urbania. Moi c'est Benoît, je suis journaliste culture populaire chez Urbania. Je suis accompagné de Laïma.
Salut Ben!
Laïma est journaliste aussi avec moi. Présente-toi.
Oui! Ouais. Moi c'est Laïma, je suis journaliste intimité et identité chez Urbania.
Puis aujourd'hui, on va parler du nouveau mémoire de Britney Spears, « The Woman in Me ». La femme en moi, en français, c'est la première fois vraiment que Britney Spears prend la parole pour elle-même de sa carrière depuis la fin de son conservatorship, comme
sa
on
tutelle.
Dit ça en français, sa tutelle, ouais. Par son père. Elle avait vraiment jamais pris la parole, puis là, elle le fait pas à peu près. Laïma, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, moi, c'est un livre qui m'a rendue profondément triste.
Ah ouais?
Ouais. J'ai trouvé que c'est un livre qui contient énormément de solitude et de violence. Pour moi, c'est vraiment un livre sur la solitude. Je pense qu'on va avoir l'occasion de le développer, mais ouais, moi, c'est un livre que j'ai pas trouvé si facile que ça à lire. Ça, ouais.
OK. Ben écoute, moi, j'ai trouvé ça extrêmement divertissant.
OK.
Il y avait une colère dans ce livre-là. Il y avait une colère, puis un désir de parler, puis un désir de vivre aussi.
C'est vrai.
Un désir de vivre pour elle-même que j'ai fait comme « Good on you, girl! Let's go! »
Le côté empowerment.
Ah oui, vraiment.
Ouais, c'est comme si moi, j'ai plus vu le côté soumission, exploitation. Je pense que c'est ces thèmes-là, moi, qui sont vraiment venus me chercher davantage, ouais.
Okay, est-ce qu'il y a un moment dans le livre où est-ce que ces thèmes-là sont sortis plus fort pour toi?
Bien, pour vrai, je sais pas s'il y a un moment en particulier. Je pense que ça transcende vraiment, vraiment le livre au complet. Puis, pour moi aussi, c'est un livre sur... les écarts et les extrémités, on dirait. Il y a un moment en particulier qui me vient en tête. Elle nous explique, Britney, qu'elle vient de signer un contrat de disque avec une super grosse maison de disque. Puis, tu sais, elle s'apprête à peut-être devenir une des stars les plus importantes du monde. Mais le moment dont elle se rappelle le plus, c'est quand elle a foncé dans une moustiquaire.
Oui.
Où... le paragraphe commence, puis elle nous dit qu'elle est une des plus grandes stars du monde, mais la scène qu'elle nous raconte, c'est elle seule dans son lit qui mange du take-out.
Oui.
Et on dirait que ces espèces d'écarts-là, d'échelle et de valeur, d'être à la fois quelqu'un de connu, adulé, célébré, mais c'est aussi cette même personne-là qui est toute seule chez elle et dont personne ne se préoccupe.
C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, Britney Spears, pour ceux qui étaient là en 2003 le savent, c'était pas vraiment une vraie personne, c'était une idée.
Ouais,
c'était la sexualité féminine incarnée, c'était une idée que tout le monde pouvait se faire parce que justement personne, parce qu'elle ne prenait pas la parole pour elle-même. Puis on dirait justement qu'à la lecture de ça, de The Woman in Me, sa popularité et la Britney qu'on connaissait était un peu irréelle pour elle aussi. Elle était un peu estrange, était un peu complètement aliénée de cette réalité-là, elle aussi. C'est ça, moi, j'ai vu ces moments-là comme des moments de simplicité, en fait, comme des moments où est-ce qu'elle se rattachait, parce que tout est arrivé très vite pour elle. Ça, c'est un autre, un autre truc qui m'est apparu dans la lecture de ce livre-là. Tout est arrivé très vite. On est passé très vite d'une vie simple, tourmentée, mais simple, parce qu'elle... On l'en verra, on en parlera plus tard. Son père est extrêmement violent et désagréable. Mais,
oui,
mais
c'est le moins qu'on puisse dire.
À une vie extrêmement compliquée, où est-ce qu'il y a des attentes, où est-ce qu'il y a des pressions, où est-ce qu'il y a des engagements. Puis elle a, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, qu'elle n'a jamais 100% fait la transition de la fille qui existe en Louisiane à la professionnelle. Elle a toujours été un peu entre les deux. Là.
Oui, oui, oui. Puis je pense que le titre du livre de Woman in Me sert ça, ce propos-là aussi. Elle parle de quelque chose qui est en elle. Mm-hmm. C'est comme si le titre insinuait déjà cette espèce de double identité-là.
Mm-hmm.
Tu
Absolument.
Vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est comme si tout ce temps-là, on avait oublié qu'elle était une humaine, en fait, puis qu'il y avait une femme en elle. Puis c'est ça, on en parlait tout à l'heure avant de peser sur record, mais le titre de Woman in Me fait référence à sa chanson qui était I'm not a girl, not yet a woman.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, elle nous raconte l'histoire d'une femme qui a été traitée comme une fille à travers la tutelle que son père lui a imposée. Mm-hmm. Fait que tout d'un coup, c'est comme si elle se repositionne en tant que femme. Ouais. Et une femme, par rapport à une fille, c'est quoi? C'est un humain qui a des droits et qui a le droit de parole qu'on lui a enlevé pendant tellement longtemps, tu sais.
Clairement. Mm. Clairement. Puis c'est ça. Puis ce droit de parole-là, elle était... Tu sais, je sais pas si tu avais lu l'entrevue que je t'avais envoyée, qu'elle avait fait en 2003.
Non, j'ai pas pris
ça. Où est-ce que c'est une entrevue avec un journaliste que j'aime beaucoup, Chuck Klosterman, où est-ce qu'il lui demande de parler de la symbolique de la Vierge son marketing. Et il refuse d'en parler. Elle dit, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas, ça existe pas, c'est pas... Je m'habille pas sexy pour donner des idées aux gens, je m'habille sexy pour inspirer les autres.
Mm.
Fait que c'est ça, elle a vraiment cassé cette image-là parce que, on va se le dire, pendant longtemps, Britney Spears a été marketée aux jeunes garçons du monde entier comme la vierge qui leur a été promise.
Ouais, mais pour les jeunes filles aussi, comme l'idéal à atteindre d'une certaine manière.
Absolument.
T'sais. Puis ça, c'est vraiment particulier. Là, moi, dans le livre, un autre moment que j'ai trouvé quand même difficile, parce que je disais que c'est quelque chose que j'avais trouvé difficile à lire, c'est quand elle donne son point de vue sur la fameuse entrevue qu'elle a donnée à Diane Sawyer.
Ouais.
Et je suis retournée voir cette entrevue-là. Et c'est presque insoutenable à regarder.
Oui,
puis elle lui demande carrément « Are you a virgin?
Mm-hmm. »
Tu sais, mais on n'a jamais posé ces questions-là à Justin Timberlake, qui était son copain de l'époque, tu sais. Mais oui, c'est ça, cette espèce de commercialisation de l'image de la jeune fille pure.
Ouais.
Mais en même temps, il me semble qu'elle l'a dit à un moment donné qu'elle était comme the sluttiest sweetheart ou je sais pas quoi. Ouais. Fait qu'encore une fois, on est dans ces espèces d'extrêmes-là. On nous la vend comme une fille hyper sexualisée, mais en même temps pure. Donc, on était vraiment comme dans une espèce de putain madone à l'intérieur d'une même personne. T'sais.
Puis elle existait pas. Sûrement, cette personne-là n'existait pas pour de vrai. Elle brise ça en parlant de sa première fois dans le livre. Sa première fois, désolé les hommes qui pensent encore que Britney Spears l'aurait promise, c'est arrivé avant même qu'elle soit célèbre.
C'est ça, ben oui. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'elle l'a dit de façon vraiment normale. C'était ma première relation sexuelle, mais c'est parce que nous, on apprenait aussi au moment où il y a eu la fameuse séparation très, très difficile pour elle avec Justin Timberlake, où justement, le marketing de cette relation-là, c'était qu'ils attendaient le mariage.
Ouais.
Mais, tu sais, next thing you know, on apprenait que, premièrement, oui, ils avaient couché ensemble, mais aussi qu'il la trompait à tour de bras et qu'elle aussi l'avait trompée une fois. Puis après ça s'est reviré contre elle beaucoup, tout ça.
Absolument.
Donc, c'est très malsain, c'est très pervers, je trouve.
Absolument. Puis elle l'encapsule dans une phrase que j'ai trouvée extrêmement forte. Elle dit « Je suis désolée, mais je peux pas avoir 17 ans toute ma vie. » Je peux pas avoir 17 ans. J'ai trouvé ça extrêmement fort quand elle a dit ça. T'sais, je peux pas avoir le look que j'avais quand j'avais 17 ans. Je peux pas être pure comme j'étais avant 17 ans. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Puis elle en fait la narration de manière extrêmement froide et calculée. J'ai trouvé ça triste en même temps, mais très, très éclairant par rapport à la perception qu'on avait d'elle.
Ouais. Ah ouais, ben mon si pour moi, c'est la phrase, je pense, qui résume le livre. Tu sais, parce qu'à la fois, on parle de comment elle se sent, mais on parle beaucoup des attentes que les gens avaient envers elle, tu sais.
Qui étaient complètement construites, complètement irréelles. Puis c'est ça. Elle a vécu à la hauteur de ces attentes-là tellement longtemps, puis à un grand sacrifice. Tu sais, il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement brisé le cœur, c'est que Sarah Silverman, dans un gala, faisait des blagues sur ses enfants pendant qu'elle pleurait sa vie derrière, étant en séparation avec Kevin Federline.
Ouais.
Elle pleurait sa vie derrière. Ça m'a brisé le cœur parce que personne ne s'en est rendu compte. C'est la première fois qu'on en entend parler en 14 ans. J'espère que Sarah Silverman s'est sentie mal un petit peu.
Ben, s'il y a quelqu'un que j'espère qu'il s'est senti mal en maudit, c'est Justin Timberlake. Il y a autre chose qui m'a frappée à la lecture du livre, c'est que je me suis rendu compte, je pense que je le savais, mais je me suis d'autant plus rendu compte à quel point elle était jeune quand elle a commencé. Puis ce qui fait que j'ai eu cette espèce de déclic-là, c'est qu'elle se faisait poser des questions en entrevue, à savoir, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes une mauvaise influence pour les jeunes parce que vous vous habillez sexy? Puis elle avait un peu répondu la première affaire qui lui passait par la tête, puis après ça, ça a été retenu contre elle, et retenu encore, et retenu. Mais elle avait genre 18 ans à l'époque. Puis ça me fascine souvent ça avec les personnalités qui sont surexposées dans l'œil du public quand ils sont très, très jeunes. C'est qu'ils ne sont pas plus ou moins intelligents que tous les autres kids qui ne sont pas connus. Mais la différence, c'est qu'eux, quand ils ont une réflexion parce qu'on leur pose une question d'entrevue, bien ça, c'est retenu contre eux. Et j'ai vu là une certaine injustice.
Oui.
Tu vois?
Absolument. Absolument. Tu sais, puis ça a été une des premières personnes à se faire lancer en dessous du train aussi jeune que ça. Mais tu sais, c'était le début de la télé-réalité aussi. Puis chaque fois que quelqu'un dans la télé-réalité dit quelque chose, mettons, au confessionnal ou quelque chose comme ça, si c'est niaiseux, ils se font lancer en dessous des roues de l'autobus. Puis... oui, absolument. T'sais, il y a une surexposition, mais une prise hors de contexte aussi, ne serait-ce que de dire aux gens, de dire que, hey, c'est une personne de 23 ans qui a dit une niaiserie, ça se peut. T'sais. Ça se peut qu'une personne de 23 ans dise une niaiserie. Puis, tu sais, il y a un certain niveau de responsabilité à dire des choses quand tu es en public aussi, mais tu sais, il y a un niveau de responsabilité aussi chez les gens qui regardent, qui écoutent, qui lisent. Que ça qui semble se perdre, je pense, depuis une vingtaine d'années. Là.
Oui, vraiment. Puis tout ça, ça devenait des prétextes pour la traîner dans la boue.
Ouais.
Alors que parallèlement à ça, tu sais, un Justin Timberlake, par exemple, se faisait beaucoup moins critiquer sur des choses qu'il disait. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du genre, là. En fait, je pense vraiment qu'il y a quelque chose du genre. Puis elle le nomme, elle aussi, dans le livre. Elle dit, tu sais, moi... On m'accusait d'avoir tenu certains propos en entrevue. Justin, il pouvait dire ce qu'il voulait. Puis ça, c'est les mêmes années aussi où des femmes comme justement Lindsay Lohan, Paris Hilton aussi, tu sais, étaient comme vraiment, vraiment, vraiment exposées. Fait que ces jeunes femmes-là, on leur en mettait beaucoup sur les épaules. Vraiment beaucoup.
Vraiment. Puis elle en parle de Paris Hilton dans le livre, puis elle en trace un portrait beaucoup plus tendre. Beaucoup plus humain, beaucoup plus nuancé aussi que de la bimbo qui sort dans les bars, puis qui, tu sais, qu'elle expliquait que Paris Hilton était venu pour lui changer les idées, pour l'aider, pour l'aider à avoir du plaisir. Puis tu sais, il y avait un beaucoup de care, il y avait beaucoup d'attention là-dedans, il y a beaucoup de tendresse dans sa démarche à Paris. Puis j'ai trouvé ça intéressant, justement, une femme qui décrit une femme dans un livre qui c'est très, très différent de comment... Tu sais, on parle de patriarcat, là, souvent. Là, on parle de patriarcat, c'est comme... Si vous voulez voir c'est quoi le patriarcat, lisez The Woman in Me de Britney Spears, puis regardez les descriptions qu'elle en fait de Madonna, Paris Hilton.
Ah,
c'est complètement différent que l'image qu'on a. Parce que l'image qu'on a est bâtie à travers d'un point de vue masculin.
Oui. Bon, si j'ai été vraiment touchée par les mentions qu'elle fait de Madonna.
Oui.
Quand elle est dans son appartement à New York, elle dit que Madonna est venue la voir, puis qu'elle a pressenti que Madonna comprenait intuitivement ce qu'elle vivait. J'ai trouvé ça super, super touchant aussi.
Vraiment, vraiment. Ils ont prié ensemble.
Oui. On pourrait peut-être parler un peu des différents hommes, en fait, dans la vie de Britney Spears. Je pense qu'on pourrait faire une thèse de doctorat là-dessus. Mais comment tu as perçu ça, toi, la masculinité, mettons, dans ce livre-là?
Écoute, il y a une autre phrase qui encapsule ça beaucoup. Puis ça traverse, je pense, les trois relations. C'est quand son père a pris la tutelle. Il lui a dit « C'est moi qui colle les shots maintenant. Maintenant, c'est moi, Britney Spears. » Je trouve que à chaque fois qu'un homme a croisé sa vie, que ce soit Justin, que ce soit son père, que ce soit Kevin, ils ont essayé de... Ils ont voulu avoir la puissance puis la célébrité et le statut qui allait avec Britney Spears sans aimer la femme qui venait avec.
Exact, exact. Ouais. Puis on revient encore au titre de Woman in Me, mais c'est pour ça que, pour moi, c'est une histoire d'exploitation aussi. Puis c'est clairement une vie qui est traversée par le contrôle masculin. Puis c'est ça, en préparant l'épisode, c'est évidemment, je pensais à Justin, à Kevin Federline, à son père, mais je pensais aussi au paparazzi.
Oh mon Dieu, oui.
Tu sais, qui sont... bon, il y avait des femmes aussi, mais c'est vrai que les histoires qu'elles racontent par rapport au paparazzi, c'est beaucoup des hommes, tu sais, qui la pourchassent littéralement, tu sais. Puis là, ça a donné lieu à la fameuse scène dont tout le monde avait entendu parler, puis que ça avait donné lieu aussi à « Leave Britney Alone
».
Mais cette fameuse scène où les paparazzi la pourchassent sans trêve, en fait. Puis ça aussi, je trouve que c'est vraiment très violent, mais c'est aussi, ça montre que ces hommes-là aussi voulaient faire de l'argent et avoir du succès à ses dépens, tu sais.
Ben oui, puis c'est ça, c'est comme l'idée de Britney Spears qu'on avait puis qu'on achetait, c'était un produit, c'était pas une femme. On revient au titre encore de « Woman in Me », c'est pas le produit qu'elle donne là. Il n'y a rien qui est raconté de manière sexy là-dedans. Il n'y a rien. C'est ça qui je trouve vraiment drôle, c'est que dans une narration conventionnelle, il faut qu'on explique les choses pour quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit...
Là,
Britney, elle s'en contre-torche, mais merveilleusement, elle dit « OK, vous savez tout sur ma vie, voici ce que j'ai pensé à ce moment-là, voici ce que j'ai pensé à ce moment-là. » Quand elle me parle de Kevin Federline, elle raconte à peine comment ils se sont rencontrés, elle raconte à peine comment ils se sont mariés. 1, 2, 3, 4, il y avait 2, 3 pages, puis ils étaient mariés.
C'est ça.
Fait que ça, cette relation-là, tu sais, c'était un peu le plus bas de Britney Spears. C'était son low moment à Britney Spears, où est-ce qu'elle s'est rasé la tête, où est-ce qu'elle a perdu la
garde de ses enfants.
Fils. Puis on voit vraiment un autre point de vue. On voit vraiment son point de vue là. T'sais, elle raconte que Kevin, il l'a laissé tout seul. Genre, il a essayé de... une fois qu'il était marié avec elle, il a essayé de devenir rappeur. Il a essayé de faire sa propre musique. Puis, il n'était pas invité au party. Il n'était pas invité aux sessions d'écoute. Il était tout seul. Il l'a laissé tout seul.
C'est ça. Mais c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que pour moi, c'est vraiment un livre sur la solitude profonde. Profonde. Parce que quand elle est avec des gens, elle est seule. Elle l'a dit même à plusieurs reprises qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Tu sais, elle dit « j'avais pas vraiment beaucoup d'amis proches avec qui je pouvais parler de mes enjeux. » Puis quand elle est toute seule, elle est vraiment, vraiment, vraiment toute seule.
Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé le gros moment de solitude, c'est qu'elle est mariée avec un homme, elle est en train de perdre la raison, elle est en train de perdre ses enfants, puis le gars, il est juste pas là.
Il est pas là.
Puis il se pointe stratégiquement dans les médias pour avoir l'air d'être là, puis pour avoir son 5 minutes de gloire. Il l'utilise, elle.
Ouais.
Puis il l'a utilisé, puis il l'a contrôlé, elle, pendant des années après qu'on ait oublié qui était Kevin Federline. Ouais. Ça m'a 100% brisé le cœur.
Ouais, ses parents n'étaient pas là non plus aussi. C'est comme si personne n'est jamais de son bord.
Ouais, exactement.
C'est ça qui est triste. Elle est vraiment seule contre le monde, tu sais.
Oui, puis c'est parce que, c'est ça, elle est devenue comme cette idée-là, elle est devenue ce produit-là pour tout le monde. Tout le monde a comme oublié qu'il y avait une femme à l'intérieur de elle. Elle est devenue un produit... Même pour sa famille, son père a profité d'elle pendant le conservatorship. Il était extrêmement violent verbalement, psychologiquement avec elle.
Ouais, ouais, dégradant, rabaissant à fond. Ouais.
Il était violent avec son fils même. Il peut plus voir le Sean Preston, Monsieur Spears. Fait que c'est vraiment... Moi, ça m'a... ce manque de chance et d'amour avec les hommes, m'a vraiment... Je pense que ça part tout du fait que elle est comme devenue une idée dans la tête de tout le monde. Elle était une idée.
Exact.
Puis tout le monde s'est fait une idée de qui elle était. Puis là, 20 ans plus tard, elle prend parole.
Ouais.
Puis, ouais.
Puis tu sais, là, on est un peu déprimant là, en ce moment.
On s'excuse.
Mais il y a quand même des aspects qui m'ont aussi fait sourire. Évidemment, tu parlais du fait que tu avais été divertie.
Ben oui.
Moi, j'ai été vraiment touchée par une certaine candeur
oui,
qui traverse le livre. Puis certains moments qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment amusée puis fait sourire, c'est quand elle, quand même au début du livre, elle remonte dans ces années où elle était dans le Mickey Mouse Club. Puis elle est comme, ah oh ouais, j'étais là, je dansais, je chantais, j'aimais vraiment ça. Puis je partageais ma loge avec une fille qui s'appelait Christina Aguilera. Puis là, tu sais, j'étais sur une scène. Puis là, il y avait comme mon ami du Mickey Mouse Club qui s'appelait Ryan Gosling. Puis t'es comme, aïe, yeah, c'est quand même fou ça aussi. Il y a quelque chose de très amusant dans cette espèce de candeur-là pour parler de gens qui sont devenus des superstars mondial, tu sais.
Ben oui, puis c'est la candeur du Sud, je pense. C'est comme, c'est la candeur du Sud qui l'a jamais quitté. La petite fille de la Louisiane était jamais trop loin. Puis elle s'est, je pense, beaucoup repliée sur elle pour survivre. Elle dit au début, dans le premier chapitre, « J'étais juste bien quand je chantais. » T'sais, je pense pour ça qu'elle a été capable de traverser tout ça, parce qu'elle était capable de connecter avec une activité qui voulait dire quelque chose pour elle, qui la faisait sortir de elle, dans le fond. Parce que, ben, encore une fois, spoiler alert, son père était violent, contrôlant, alcoolique et agressif avant même qu'elle soit célèbre.
Ouais.
Fait qu'elle a toujours eu peur de son père. Mm. Elle a toujours eu peur de son père, puis une manière de prendre contrôle, pour elle, c'était de chanter, parce que là, tout le monde portait attention à elle, puis tout le monde la voyait comme une petite fille précieuse. Tout le monde voulait la protéger. Fait qu'elle s'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose pour elle.
Puis je suis curieuse de savoir comment tu penses que ce livre-là transforme le discours que les gens, les médias tiennent sur Britney?
Ben, c'est vraiment... C'est vraiment... Il n'y a plus d'interprétation possible. Je pense. Elle est claire, elle est littérale. Voici ce qui s'est passé. Voici mon point de vue sur ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est quand même un point de vue. Elle passe très, très rapidement sur certaines choses.
Ouais, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu sais, l'épisode où elle se rase la tête, puis elle frappe avec le parapluie sur la voiture, elle passe très vite là-dessus, puis tu sais, ça se peut qu'elle a eu un épisode de santé mentale, puis ça se peut qu'elle a eu un diagnostic, parce qu'elle aurait dit plus tard pendant sa tutelle qu'elle prenait des médicaments. Mais on le sait pas non plus. C'est que c'est... Ce qui était important pour elle, je pense, c'est de rétablir leur juste face aux choses dont elle a souffert. Mais tu sais, il y a quand même une certaine partie d'interprétation qui va... Qui va être fait.
Oui, puis ça me fait penser au fait que je lisais des articles sur le livre, puis il y a des gens qui disaient « Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? » C'est un peu ce que tu viens de dire, ça laisse place à l'interprétation. Mais la réflexion que je me faisais, c'est que ce soit vrai ou pas, ou que ça soit partiellement vrai ou pas, ce qui est le plus important, je trouve, que c'est que sa voix fasse maintenant partie du grand bassin des voix qui se sont prononcées sur elle.
Absolument.
Tu sais?
Absolument. Puis sa voix, c'est elle qui se connaît, c'est elle qui... Elle rétablit leur juste face à plein de mythes et plein de... dont par rapport à sa sexualité, qui, moi, j'ai trouvé ça très sain de la manière dont elle a amené, justement, très, très peu romantique, très, très terre-à-terre. « Hey, j'ai perdu ma virginité à un gars pas mal plus vieux quand j'étais encore à Louisiane. Désolé, guys, ça s'était déjà passé quand vous avez commencé à fantasmer sur moi. »
Ouais, exact.
J'ai beaucoup aimé aussi, on parlait de moments plus légers, où est-ce qu'elle parle de son idée pour le clip de « Baby One More Time ».
Oui! Ah oui, c'est vrai!
Quand elle dit juste genre... Il y avait un tout autre concept, je pense, un concept avec des vaisseaux spatiaux,
ouais,
une affaire de main.
Des astronautes.
Puis elle dit « Moi, ce concept-là, c'est on est à l'école, la cloche sonne, on danse. » Puis c'est ce qui s'est passé, c'est le clip qu'on a eu.
Mais je trouvais qu'on sentait une belle... un esprit quand même fonceur, affirmé. Tu sais, tu sentais qu'elle avait quand même envie de donner son avis, de s'impliquer. Oui. Puis un petit peu plus tard, tu sais, elle parle d'un moment où elle a performé avec Madonna.
Oui.
Quand il faisait le clip avec Madonna.
Me Against the Music.
Exact.
Excellente chanson.
Puis, ouais, vraiment. Puis elle raconte qu'à un moment donné, Madonna avait un trou dans son costume.
Oui.
Puis elle a fait attendre tout le monde pendant des heures en attendant qu'une couturière vienne le réparer. Puis Britney, à ce moment-là, elle dit « Aïe, je savais même pas que tu pouvais faire ça. »
Oui.
Puis à ce moment-là, elle était déjà quand même avancée dans sa carrière. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était déjà excessivement connue.
Oui.
Fait que tu sens qu'elle a quand même... À ce moment-là, tu sens qu'elle avait gardé quand même une espèce d'humilité, une espèce de simplicité. Mm-hmm. Puis elle dit, tu sais, on parlait de la Louisiane puis du Sud. Elle dit, tu sais, nous, dans le Sud, les bonnes manières puis le fait de bien se comporter, c'est super important. Bien qu'elle elle est toujours restée très, très attachée à ça. Puis je trouvais ça vraiment touchant.
Oui, vraiment.
Ça, ouais.
Vraiment. Puis, tu sais, je pense que y a vraiment un désir de continuer à être cette personne-là qu'elle a montré sur les réseaux sociaux, qu'elle a montré sur cette simplicité-là, cette spontanéité-là, en fait. Cette spontanéité-là qu'elle a. Tu sais, elle parlait des photos nues qu'elle met sur les réseaux sociaux. « Hey, on est né nu, on va mourir, on va mourir nu. » C'est quoi? Ça me dérange pas d'être nu devant les gens. Je me sens bien quand je suis nu. Je suis comme « Oh! »
Ouais. Oui, puis aussi, un truc qu'elle disait, parce que c'est intéressant, elle est torse nu sur le livre, mais par rapport aux photos nues qu'elle met sur les réseaux sociaux, elle disait « Qu'est-ce qui vous choque? Toute ma vie, il y a d'autres personnes qui m'ont fait apparaître nu ou très peu habillée. Puis là, quand c'est moi qui le fais, vous êtes fru. »
Ouais.
C'est très hypocrite. Et je trouvais ça... tellement brillant qu'elle dit ça. Et comme là, la gang, c'est moi qui décide de me montrer les boules.
Ouais, exactement.
Fait qu'arrêtez de chialer parce que mes seins ou mon corps ou peu importe mes fesses, vous les avez adulés puis vous en avez redemandé quand c'était des gens qui exploitaient mon image, qu'ils mettaient de l'avant.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est très intéressant de se questionner par rapport à la manière dont on consomme ces images-là, ces célébrités-là. Ouais.
Ouais, vraiment. Puis... c'est ça, elle a l'air vraiment dans un endroit maintenant, d'une place de paix. Elle a l'air vraiment être en paix avec qui elle est, qui elle veut devenir. Mm. Puis je sais pas qu'est-ce que le futur tient avec elle, parce que ce qui ça rend quelque chose clair, c'est que la tutelle a été très lourde avec elle côté spectacle, côté performance. On dirait qu'elle a plus vraiment le goût d'être chanteuse. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a le goût de faire dans sa vie maintenant, mais tu sais, je pense que elle peut juste être Britney Spears, puis les gens vont l'aimer. Là.
Ouais, c'est vrai que peut-être que ça attire une sympathie sur elle. Puis je trouve que ce livre-là arrive aussi dans un contexte où elle n'est pas seule à prendre cette parole-là de réappropriation de son narratif, de son image. Ouais. On peut penser à Pamela Anderson.
Absolument.
Son documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai adoré. Je l'ai tellement aimé, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a aussi Brooke Shields qui a lancé un documentaire où elle parle de la manière dont elle était ultra sexualisée quand elle jouait dans Le Lagon Bleu. Puis Emily Ratajkowski aussi qui a écrit le livre My Body où elle parle vraiment de son point de vue sur la manière dont son corps a été présenté au public. Et moi, je trouve ça bouleversant, réjouissant, empowering, troublant. Toutes ces femmes-là, c'est beaucoup des femmes en ce moment qui font ça. Mais...
David Beckham aussi.
Ouais, David Beckham, même aussi, c'est vrai, c'est pas juste des femmes. Il y a aussi Sylvester Stallone.
Oui.
Qui a lancé le documentaire Sly, où on le voit, je sais pas si tu l'as vu.
Je l'ai vu, j'en parle dans ma chronique vendredi.
Ah, OK, bon, mais je vais lire ça, mais on le voit sous un jour où inédit, là.
Absolument.
Moi, c'est peut-être aussi puisque je connaissais rien sur lui.
Ouais, on ne connaissait pas grand-chose, en fait. C'est la première fois qu'il
prend
la parole.
Non, mais moi, je ne savais même pas que c'est lui qui avait écrit ses films.
Ah, pour vrai?
Juste pour te dire à quel point je partais loin. Mais on le voit comme quelqu'un de plutôt humble, qui nous parle de ses regrets, qui fait une grande introspection. Donc, je pense, ou du moins peut-être que j'espère, que toutes ces prises de parole-là, des gens ultra célèbres qu'on adule sans vraiment les connaître au fond, prennent cette parole-là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super.
Vraiment. Stallone qui parle de la violence dont ils ont été victimes aux mains de son père, jusqu'à l'âge où il était Rambo. Son père lui avait fait... il avait essayé de le blesser dans un match de polo, je pense qu'il y avait 40 ans.
Ouais.
Mais oui, absolument, je trouve ça super... vraiment, vraiment cool que ces personnalités-là décident d'un seul coup qu'on les connaisse pour eux-mêmes. Prennent la décision, hey, on va me connaître pour qui je suis pour de vrai.
Ouais. Oui, non. Puis peut-être que les réseaux sociaux aident aussi à ça, parce que ça me fait penser à un moment donné, Lindsay Lohan, qui elle aussi en a pris pour son rhume en termes d'être traînée dans la boue par les paparazzis, puis d'être vraiment, d'être montrée dans des postures absolument humiliantes et terribles, puis elle s'est retirée du vedettariat ou du milieu Hollywood et tout pendant un moment. Puis à un moment donné, je me rappelle plus du contexte, mais elle disait que si elle avait eu les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, au moment où tout ça lui arrivait, ça aurait peut-être été plus facile parce que ça lui aurait donné une plateforme pour s'adresser à ses fans selon ses propres termes.
Clairement.
Puis c'est probablement la même chose avec Britney à l'époque, parce que ces personnes-là étaient complètement... assujettis au paparazzi, puis aux magazines, puis aux tabloïdes, puis tout ça. Ces gens-là faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Tu sais, je veux dire, la façon dont Britney a été traitée quand elle avait ses enfants par les paparazzi, ça, c'est fucking bouleversant. Là,
ben oui, mais oui, la fameuse photo où est-ce qu'elle a son fils sur les genoux pendant qu'elle conduit, qu'il l'a mené au porte de la DPJ, dans le fond.
Oui.
C'est un paparazzi qui l'a pris, cette photo-là. Là.
Exact, mais ce qu'elle explique, c'est que la raison pour laquelle elle s'est éloignée en voiture avec son fils sur les genoux, c'est parce qu'elle était suivie par les paparazzi. Exact, fait que t'es comme, OK, c'est quand que tu peux gagner, dans le fond, jamais.
Puis c'est eux, est devenue, dans le fond, ce qu'eux voulaient qu'elle soit. T'sais, eux, ils ont poussé, ils ont manipulé sa réalité en la pourchassant, puis elle est devenue, dans le fond, un sujet encore plus juteux pour eux. Là. Elle était une idée. Puis elle dit dans le livre, elle dit, ma vraie couleur de cheveux, c'est noir. Elle dit, j'étais pas blonde. Elle dit, ma vraie couleur de cheveux, c'est noir. Ça a été une décision de marketing.
Ah, ouais, c'est fou, raide.
Bon, ben écoute, c'est une conversation que le livre de Britney Spears a commencé, mais qui va se continuer, je pense, sur les réseaux sociaux et dans d'autres biographies de stars dans le futur. Laïma, merci.
Ah, merci à toi. J'aurais parlé de ça pendant 4 heures.
Ben oui, moi aussi. On va probablement continuer de parler après la fin du podcast. Oui. Puis écoutez, merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à l'infolette Urbania, au Micromag. C'est tout sur le site web urbania.ca. Merci, guys. À la prochaine.
Bye.
Bye, bye.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.